Top, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est très exactement 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
La réalité dépasse la fiction, alors quitte à la reconstituer 25 ans après, autant emprunter à la série télé ses codes de narration. Nul n'a oublié Human Bomb, mystérieux preneur d'otages d'une classe de maternelle deux jours durant à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Nul n'a oublié ces images de télévision, caméras braquées jour et nuit devant la petite école. Nul n'a oublié le pseudonyme de cet inconnu qui cherchait la gloire. Nul n'a oublié Nicolas Sarkozy allant au contact physique du criminel. Ce qui en a été dit, montré et écrit. Feuilleton haletant, indissociable de sa médiatisation, passionnant.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Laurent Kouchner.
Bonjour.
Et donc vous signez ce film d'une efficacité, alors là je le dis, redoutable. On est attrapé, on est pris. En plus il est très beau à regarder, mais on va en reparler parce qu'il y a des parties pris esthétiques quand même très léchées et très, très affirmées. Human Bomb, prise d'otage à la maternelle de Neuilly, C8 à 21h, sans voix off. Mais oui, c'est possible sur la TNT en prime time, c'est incroyable. Enfin c'est très bien fait. Bref, à vos côtés, Jean-Pierre Abou, vous étiez l'envoyé TF1 sur place. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, oui.
Voilà, et vous avez été présenté au preneur d'otages, vous avez même pénétré cette classe à sa demande. On va en reparler avec vous. Un petit mot d'actu des médias pour le coup. Les journalistes et animateurs de la RTVE, télévision publique espagnole, ne se laissent plus faire. Tous les vendredis, mouvement lancé par des femmes qui y travaillent, certains s'habillent en noir à l'antenne pour protester contre le mode de nomination de leur patron et dénoncer un média d'État aux ordres du pouvoir, disent-ils, en tout cas du parti au pouvoir. Par ailleurs, un hashtag fleurit depuis 3 semaines sur Twitter, collecte de cas de pression et de petites censures que la rédaction se voit régulièrement infliger dans son traitement de l'information. À suivre donc dans l'instant M. Enfin, France 2 met fin donc à la célèbre épreuve du cylindre dans Fort Boyard.
Elle a un très joli centre de gravité.
Voilà,
très bien, très beau.
Voilà, là tu es, c'est parfait ça.
Très joli. Bon, ça serait peut-être plus régalé avec Lucienne. Mais...
c'est très bien là. Il y a des plans saisissants.
C'est sublime.
Continue. Ne bouge pas.
Cet été, ça serait bien qu'il passe en 3D.
Ah, non.
Doit-on vous faire un dessin? Ça faisait partie des invariants de ce jeu télé. Ça donnait des séquences croustillantes. Deux femmes à plat ventre sur cette espèce de machin, filmées de face, plongées sur leurs seins écrasés ou de côté les fesses en l'air. Donc ça c'est bon, c'est fini, on a compris. Ça y est, on va passer à autre chose. Exit aussi l'épreuve de la chambre capitonnée avec camisole de force. Que des bonnes nouvelles ce matin. Allez, 13 mai 1993, à 9h du matin, commence une prise d'otage qui durera 46 heures, 21 otages, des enfants de 3 ans et leur maîtresse. À la fin, il ne restera que 6 gamins. Nicolas Sarkozy est alors maire de Neuilly-sur-Seine. Il entre dans la classe pour négocier avec un homme cagoulé et couvert d'explosifs. Tendez bien l'oreille pour entendre tout ce que racontent ses archives.
Je me souviens d'une impression, c'est que j'entendais la sueur couler dans mon dos. C'est donc que je devais pas être très à l'aise.
Je viens pas là pour m'amuser. On ne joue pas, là. Par les gauches, j'avais la responsabilité. Donnez-moi la petite fille. Donnez-moi une petite fille. Un petit garçon, une petite fille.
Et ce type qui répondait pas, ça me rendait fou.
Marie, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. On peut avoir confiance l'un en l'autre. J'essaie de vous sortir de la panade. J'essaie de trouver le pognon. J'essaie de trouver la voiture. Je vais porter le message au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je peux faire de plus ?
Laurent Kouchner, vous qui réalisez ce film, juste un mot, qui filme dans le couloir? Qui est dans le dos de Nicolas Sarkozy? Quelle caméra de télévision a pu pénétrer jusque-là?
Alors ce sont les sapeurs-pompiers en fait,
ah,
il y a un service média des sapeurs-pompiers quand il y a des gros incendies ou des moments comme ça.
On tourne des images.
On tourne des images, ça peut servir soit en interne à débriefer aussi. Là, c'est devenu une autre histoire, bien sûr.
C'est ça, parce que là, on est à 2 mètres de l'entrée de la classe, donc c'est très, très étonnant. On se demande si une chaîne a pu aller jusque-là, mais en réalité, non.
Non,
les journalistes
sont les pompiers,
étaient bloqués.
Vidéo et photo, d'ailleurs, dans le documentaire. On voit des photos noir et blanc qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent.
Alors, réalisation, je l'ai dit, sans voix off, que des images d'archives, des témoignages de ceux qui l'ont vécu de l'extérieur, des plans, notamment aériens, tournés de Neuilly-sur-Seine, des reconstitutions très succinctes du profil de Human Bomb, cagoulé, de son dispositif d'explosifs. toute la photo et il y a cette image très léchée, très 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 belle. C'est séquencé comme une série télé avec des cartons, enfin c'est en 24 heures chrono, je comprends, c'était tentant. Est-ce que vous vous êtes néanmoins posé la question du risque de tomber dans l'esthétisme et dans le spectaculaire, d'en faire un très très beau spectacle?
Évidemment, je me suis posé cette question. Alors, les belles images sont dues à Michael Mahut, avec qui j'ai travaillé également. Effectivement, l'histoire est tellement incroyable, évidemment, rien inventé, et toutes les images, les archives sont là. Donc, l'esthétisme, il est là pour, avec 25 ans qui se sont écoulés, rendre l'histoire aussi intelligible aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, avec, on filme pas, on réalise pas un documentaire aujourd'hui comme il y a encore quelques années.
Non.
Voilà. Donc, c'est simplement aussi le résultat de ça, de l'évolution de la technologie. Effectivement, on utilise un drone à un moment, effectivement, l'image, et presque une image de cinéma, c'est lié au matériel aussi qui a beaucoup évolué. Ben voilà, ça ne va pas tellement plus loin. Enfin, c'est beau à regarder, effectivement, mais c'est une histoire qui est dramatique.
Qui est dramatique, c'est ça. Tout le risque étant de basculer dans la fascination. Vous allez entendre Jean-Pierre Abou, c'était il y a pile 25 ans. Vous étiez l'envoyé TF1 sur place à Neuilly-sur-Seine.
Combien d'enfants ont-ils été libérés jusqu'à présent, Jean-Pierre?
Alors ce matin, lorsque la prise d'otage a eu lieu, vers 9h30 ce matin, il y avait 21 enfants dans cette salle de classe avec leur institutrice. Il n'en reste plus que 9, c'est-à-dire que tout au long de la journée, 12 enfants ont pu être libérés.
Jean-Pierre, je voudrais que vous racontiez cette masse de caméras, d'appareils photo. Claude Cancès, patron de la PJ, dira « Je n'avais jamais vu autant de journalistes de ma vie ».
Il faut dire que c'était la première fois qu'il y avait une prise d'otage avec des enfants de 3 ans dans une classe maternelle. Ce qui avait attiré, bien sûr, les caméras de tous les journalistes qui étaient à Paris et surtout aussi des correspondants étrangers.
Ah oui.
Il y avait des correspondants de la CBS, NBC, des télévisions espagnoles. Enfin, toutes les télévisions, pratiquement, étaient sur place pour cette prise d'otage qui était dramatique qui est absolument nouvelle. Quoi. Enfin, c'était horrible.
Il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que France Info Radio était née quelques années auparavant, en 87, mais LCI n'arrive que l'année suivante. Il n'y a pas encore de chaîne Tout Info. Il y a un moment dans le film, on vous voit dire, on faisait tous nos directs à la même heure. Est-ce que les chaînes ont basculé en édition spéciale ou pas? Comment
on
ça
avait des flashs spéciaux, parce qu'en même temps, ce jour-là, c'était l'ouverture du Festival de Cannes.
Absolument,
donc,
et on
y
voit
avait
que ça
une
se
télescope spéciale,
aux
20
heures, voilà. C'est très étrange.
Il y avait Patrick Poivre-Navort qui était à Cannes pour cette spéciale, et donc le jour était présenté, c'était théoriquement un mini-journal qui devait être présenté de Paris. Finalement, le maxi-journal s'est fait plutôt à Paris. Et de temps en temps, effectivement, il y avait un flash spécial.
C'est ça. Alors, donc vous l'avez dit, un grand moment dans l'histoire de la télévision. Et il y a un moment, le preneur d'otage, on ne sait pas encore comment il va se faire appeler, c'est à vous qu'il va le révéler, réclame de voir un journaliste de TF1. Ce sera vous, vous étiez déjà sur place, la décision, j'imagine, a été vite prise. Vous vous posez la question: pourquoi TF1? N'est-ce pas la famille Bouygues qu'on veut viser derrière?
Il faut dire que ce sont surtout mes confrères qui ont dit pourquoi TF1? Lorsque Sarkozy est sorti et a dit est-ce qu'il y a un journaliste de TF1? Tous mes confrères qui étaient là ont dit pourquoi TF1? Et effectivement, j'ai suivi Sarkozy, je ne me suis pas tellement posé la question. Dans ces cas-là, vous savez, quand vous êtes en planque devant une maternelle et qu'on vous propose de rentrer au cœur de l'événement, vous ne posez pas tellement de questions. Vous suivez effectivement Sarkozy.
Vous ne vous posez pas tellement de questions. Enfin, Nicolas Sarkozy s'est quand même posé la question d'avoir une arme, pas une arme, un gilet pare-balles, pas un gilet.
Non, mais au début, je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. On demandait à un journaliste de TF1. Je suis Sarkozy. Sarkozy me dit, ben voilà, le preneur d'otage a demandé à rencontrer un journaliste de TF1. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais en échange, à chaque fois qu'il avait une revendication, il libérait un enfant. Il dit donc, si vous acceptez, il libérera un enfant. Je dois quand même vous prévenir, me dit-il, que ce sont de vrais explosifs, puisque le matin, ils avaient fait venir des chiens renifleurs d'explosifs qui avaient reniflé le fait que c'était vraiment de la dynamite. Et là, j'ai été dans le bureau de la directrice où il y avait un état major de crise et où effectivement le psychiatre a commencé à me dire que depuis le matin ils avaient mis des micros partout, les hommes du RAID, et donc ils suivaient ce gars-là, ils savaient qu'il était profondément dépressif et suicidaire. Donc le psychiatre me dit surtout n'essayez pas de lui dire qu'il n'a aucune chance, parce que ça il le sait, n'essayez pas de le convaincre de quoi que ce soit, écoutez-le et moins vous en direz et mieux ça vaudra.
Voilà, c'est
et
à
après,
vous hein, qu'il révèle Human Bomb, c'est
parce que Claude
Cancès
me dit à ce moment-là, attention, vous n'êtes plus un journaliste, c'est un témoin, vous n'êtes plus un témoin, vous devenez un acteur dans cette affaire.
Absolument,
mais
absolument. Laurent Kouchner.
Oui, pour parler médias, hein, c'est qu'il avait demandé une radio, donc il écoutait la radio, il écoutait France
Info
beaucoup.
Absolument, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une grande pression médiatique à l'extérieur de l'école, mais les médias sont présents à l'intérieur de l'école. Je vous fais écouter, on va revenir exactement à ce que vous venez de dire, un extrait des JT de l'époque, et on voit que les journalistes pataugent un peu.
L'homme détient donc toujours les enfants, il semble calme, plutôt jeune, de race noire, dit-on aussi.
Un homme cagoulé et armé, peut-être de nationalité chilienne.
Un homme noir de forte corpulence a fait irruption dans une des classes.
Un homme noir, un homme chilien, on voit que ça patauge. Alors oui, ouais. Il a demandé une radio, ça a commencé par une radio. En échange, il a donné des enfants. Et il a eu un poste transistor, il veut savoir ce qu'on dit de lui. Et ensuite, il va demander une télé, ça a été en échange d'un petit garçon qui s'appelle Quentin, qui témoigne dans votre film d'ailleurs. Et il s'énerve quand il voit ce qui est dit de lui et que ça n'est pas juste.
Oui, il s'énerve quand effectivement on dit qu'il est noir alors qu'il est blanc. D'ailleurs, Jean-Pierre l'a confirmé très vite, c'est la première chose qu'il a vue. Il s'énerve effectivement et en même temps il a vraiment ce besoin qu'on parle de lui. Donc c'est d'après l'institutrice que j'ai rencontrée un sentiment qui est un petit peu double. Hein. C'est à la fois on parle de moi et en même temps on n'en parle pas bien.
Voilà. Alors on n'en parle pas bien. Jean-Pierre, à ce moment-là, vous comprenez que tout a été prévu, c'est-à-dire qu'il imagine un plan d'évacuation et de sortie de l'école en plein JT de 20h de TF1, devant les caméras. Donc, il y a là quelque chose qui s'oppose et qui s'oppose encore aujourd'hui, chaque semaine où un attentat se fait connaître quelque part sur la planète. Celui de la médiatisation du terroriste.
Ah, pour lui, toute cette prise d'otage devait être très médiatique. C'est pour ça qu'il avait choisi Neuilly, c'est pour ça qu'il avait choisi l'école maternelle, des enfants de 3 ans. C'était justement pour que toute la presse en parle.
C'est ça, mais quand on voit aujourd'hui les questions qui se posent avec doit-on donner le nom d'un terroriste, doit-on montrer sa photo, finalement ça naît quasiment là, en 93, Laurent Kouchner.
Alors, il y a 25 ans, en réalité, son nom n'a jamais été connu, puisqu'on ne l'a connu qu'à la fin, lorsqu'il y a eu l'intervention du RAID, et que donc on a découvert sa pièce d'identité. Donc finalement, la question ne se posait pas, puisque lui-même était très mystérieux. Et puis à l'extérieur, les journalistes ne savaient pas grand-chose, Jean-Pierre peut vous le dire, mais... Jean-Pierre, une fois qu'il est rentré, évidemment, vous avez appris beaucoup de choses, mais les journalistes à l'extérieur, finalement...
Il n'y avait aucune information,
il y avait quelques dépêches de l'AFP.
Et Jean-Pierre Abou, vous aviez des instructions. En sortant, vous deviez faire très attention à ce que vous déclariez devant les micros et caméras de vos confrères, parce que lui vous entendait de l'intérieur. Il ne fallait rien dire qu'il puisse
Je veux dire que le psychiatre m'avait fait un peu peur, parce que donc j'étais rentré dans cette salle de classe, j'avais vu les enfants en train de chanter des comptines, ce qui était assez émouvant d'ailleurs, autour de la maîtresse, et puis à ma gauche, cet homme avec cette plaquette à la main, une lumière rouge, il suffisait d'une pression de la main pour que tout explose, c'était assez impressionnant. Quand je suis sorti, et puis il m'a dit effectivement que c'était pas politique, parce qu'il y avait aussi des gens qui disaient que c'était peut-être Action Directe, etc.
On ne savait pas.
Puis c'est pas politique, je veux 100 millions de francs en petite coupure usagée, etc. Et quand je suis sorti, le psychiatre m'a dit, bon, c'était très bien, vous n'avez pas cherché à lui dire qu'il était désespéré, etc. Simplement, faites attention, maintenant vous allez passer à la télé, vous allez faire le journal de 20h, juste devant, en direct, devant cette école maternelle.
Et lui, il
tient beaucoup à un suicide médiatique, en quelque sorte, puisqu'il veut que les journalistes soient associés au maximum cette intervention, à cette prise d'otage. Il me dit donc, faites attention à ce que vous allez dire, ne dites pas, effectivement, que sa situation est désespérée, ne dites pas non plus que ce sont de vrais explosifs pour ne pas faire peur aux parents. En fait, je ne pouvais rien dire, ou presque.
C'est ça, d'ailleurs, il y a un extrait de votre intervention, c'est d'une langue de bois.
Je ne peux rien dire. Et puis, la grande peur de ma vie, c'est que j'avais vu ces 9 enfants devant la maîtresse en train de chanter, et j'imaginais si tout explosait, que j'en sois responsable. Parce qu'effectivement, j'étais juste en direct, il y avait 10 millions de téléspectateurs de TF1 qui regardaient la télé.
Laurent Kouchner.
Il aurait pu être tenté.
Il y a des enfants qui ont grandi, qui vous ont parlé, il y a des parents qui vous ont parlé, il y a tous les hommes du RAID qui vous ont parlé, y compris le négociateur, l'ancien procureur qui vous ont parlé. On peut écouter cette femme médecin qui a été dépêchée à l'intérieur de la classe à la demande de Human Bomb. Elle s'appelle Evelyne Lambert.
Je ne souhaite pas être filmée parce que le temps a passé. Et à cette époque-là, l'affaire a été très très médiatisée et les gens me reconnaissaient dans la rue, me demandaient des autographes et ça, ce n'est pas du tout ma personnalité. Donc je ne veux pas risquer de retomber là-dedans, donc je veux préserver mon image.
Laurence Dreyfus, l'institutrice, également. Alors, Evelyne Lambert n'avait jamais parlé, Laurence Dreyfus n'avait pas parlé depuis 20 ans. Toutes les deux ont souhaité se protéger leur image. C'est dire ce qu'elles ont vécu à l'époque.
Absolument, on ne s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais elles ont été, pour l'institutrice, effectivement poursuivies par les photographes, etc. Elles ont une pression médiatique énorme. Elles n'ont pas envie de retomber là-dedans. C'est un peu les phrases qu'elles ont dites. Et donc, elles ont accepté de voir diffuser les images d'elles à l'époque, mais pas aujourd'hui. C'est simplement le souci, effectivement, de ne pas être reconnues aujourd'hui dans la rue et de s'en passer à autre chose. d'ailleurs.
Alors, il y a une caméra que vous évoquez dans ce film. Hein. Je n'en tire qu'un tout petit fil de ce film parce qu'il est tellement dense dans la reconstitution que voilà, je laisse les téléspectateurs le découvrir ce soir. Il y a une caméra que vous évoquez, celle qui a été placée à l'intérieur de la classe à la demande de Human Bomb pour montrer aux parents qu'ils ne maltraitent pas les enfants, mais qui en réalité va servir de mouchard aux forces de l'ordre pour pouvoir surveiller ce qui se passe à l'intérieur et va même permettre de déclencher les opérations. Elles sont où ces images-là ? Pas dans votre film ?
Non. Je ne sais pas. Il y a plusieurs versions. On a dit qu'elles avaient disparu, ou bien qu'elles ont été disparues matériellement, l'objet, ou bien effacées, ou bien tellement enregistrées, surenregistrées, surenregistrées qu'on ne voit plus rien. La réalité, c'est qu'il y a aussi les enregistrements audio du RAID. Hein, la retranscription écrite existe, mais ils ont placé des micros assez vite dans la salle de classe. Et ces enregistrements audio, si vous savez où ils sont, ça m'intéresse.
Très bien, bah on lance un appel. Je vais vous faire entendre un son qui est assez fort et le témoignage qui s'ensuit est très émouvant. C'est l'homme du RAID qui a été chargé d'exécuter au bout de 46 heures Human Bomb.
Moi, je suis au-dessus d'HB parce que comme on sait qu'il a les charges explosives sur lui... Alors on s'est dit, dès le départ, si on doit tirer, quel est le plus efficace ? Donc il n'y en a pas 50, hein, c'est le cerveau. Et donc je me suis mis au-dessus de lui, et puis à un moment donné, il ouvre l'œil, il me voit, et il fait un mouvement de redressement, et donc avec son bras dans le sac, j'ai mon arme, j'ai mon Glock à proximité de son crâne, donc bim, 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 je tire trois fois. Voilà. Et tout de suite, il retombe, bien sûr.
Ce que vous racontez, Laurent Kouchner, ce sont les dernières heures nerveusement exténuantes pour tout le monde. Tout le monde est totalement à bout, y compris le preneur d'otages d'ailleurs qui souffre de manque de sommeil et d'hallucinations. C'est comme ça que ça s'est passé à la fin.
Oui, effectivement, et il comptait sur le fait qu'il allait à un moment s'endormir et donc finalement mettre le dispositif d'explosif dans une position qui permettrait alors de pouvoir intervenir. Et il comptait sur ce moment-là et c'est arrivé le samedi matin après 46 heures sans dormir pour la plupart des personnes qui étaient
présentes. Avec un débat assez étonnant, c'est-à-dire la question de faut-il lui glisser un somnifère dans son café et le SAMU qui est sur place qui refuse de fournir la drogue.
En disant que ce n'est pas aux médecins de participer au travail de la police, voilà, pour des soucis de déontologie. Et par ailleurs aussi, parce qu'on ne sait pas si un tel produit aurait une conséquence directe. Et donc, est-ce que c'est, comme on dit, un effet on-off ? Est-ce que la personne s'endort immédiatement ou bien est-ce qu'elle a suffisamment de temps, de conscience pour se dire « on m'a endormi, je me suis fait piéger » et à ce
et
moment-là,
se venger. Et puis forcément, vous n'éludez pas toutes les questions qui ont été soulevées après l'exécution du preneur d'otages. Vous n'éludez pas, et d'ailleurs l'homme qu'on a entendu vous dira « j'ai été traité d'assassin de la République, il a dû quitter son service pendant 2 ans ».
Oui, c'est la question de la légitime défense. Absolument. À la fin, au moment où il est entré. Est-ce que HB s'est réveillé ou pas ? Et donc, est-ce qu'il a du tiré parce qu'il a cru qu'il s'était réveillé et qu'il allait tout faire exploser. Bon, je ne sais pas si les mêmes questions se poseraient aujourd'hui. Certains, en tout cas, ont une autre version des choses en disant que la légitime défense était permanente et qu'il mettait évidemment la vie des enfants en péril à chaque instant, à chaque seconde.
Un juge d'instruction a été nommé, il y a un non-lieu qui a été rendu, mais il a fallu plusieurs mois, deux ans d'enquête. 2 ans d'enquête. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous livrer un tout petit bout de cette heure et demie de reconstitution et de documentaire palpitant. C'est ce soir, c'est sur C8 et ça retrace l'affaire Human Bombs.